Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. L'heure suivante, le magazine culturel et ensuite, apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le journal. Et on commence avec le titre. Le changement climatique affecte le problème de la mer de Chine méridionale. Le roi et la reine de Suède visiteront l'Indonésie à la fin de mai. L'Indonésie espère que le nouveau président du Timor oriental se soit engagé de résoudre les questions bilatérales. L'Indonésie a demandé au Japon d'augmenter les investissements à l'industrie sidérurgique. Le ministère du Tourisme cible Yogyakarta comme destination touristique halal. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le député de la souveraineté maritime, M. Arif Afas Ugroseno, a déclaré que le changement climatique affectait directement la nature ainsi que le conflit de la mer de Chine méridionale. Cela a été affirmé par Afas en marge du Forum géopolitique à Jakarta samedi. Il a déclaré que l'augmentation du niveau de la mer était due au changement climatique qui pourrait affecter la revendication sur la mer de Chine méridionale.
Apabila terjadi kenaikan permukaan laut,
si la surface de la mer a augmenté et les caractéristiques ont été noyées, l'épée ne peut plus revendiquer, car sur la base de conventions sur le droit de la mer, un territoire maritime est mesuré à partir de la formation naturelle des terres. Sans cela, peut-on prétendre? C'est un facteur qui n'a jamais été soulevé dans une discussion sur la mer de Chine méridionale. Arif Afas Ugroseno a également déclaré que la montée de la surface de la mer ne met pas fin simplement au conflit de la mer de Chine méridionale. Par conséquent, selon lui, la gestion du conflit, qui implique plus de 5 pays, doit être effectuée comme a été fait par l'ASEAN, par le biais du code de conduite pour empêcher le conflit de toute escalade. Le roi de Suède, Carl Gustaf, et la reine Sylvia fera une visite d'État en Indonésie du 22 jusqu'au 24 mai 2017. Il a été dit par l'ambassadeur de Suède en Indonésie, Johanna Brismar Skog, dans une conférence de presse chez l'ambassadeur de Suède, Jakarta, récemment. À la même occasion, l'ambassadeur Johanna a également dit qu'il y avait trois principaux objectifs de la première visite d'État du roi et de la reine de Suède dans ce pays. Il y a trois principaux objectifs de cette visite. Tout d'abord, d'améliorer les connaissances du public sur les deux pays. Le second, la Suède et l'Indonésie sont prêtes au commerce, l'investissement et le plus de possibilités d'emploi. Nos économies sont complémentaires. Nous avons de nombreux produits, des idées et des solutions qui bénéficie à l'Indonésie, tout ce qui concerne le commerce et l'infrastructure. Le troisième est l'innovation, la recherche et la collaboration. Nous avons établi des relations fortes dans les instruments universitaires des deux pays. Dans les secteurs du commerce et de l'investissement, l'ambassadeur Johanna a dit que la Suède était intéressée à divers produits indonésiens, y compris le café, le chocolat, la mode, les jeux et l'animation. La Suède est prête à partager des informations sur l'économie durable. Le roi Carl Gustav et la reine Sylvia se rendront en Indonésie, accompagnés par deux ministres et 31 représentants des plus grandes entreprises en Suède. Le vendredi 19 mai 2017 est le jour historique pour Francisco Guterres, qui a été assermenté comme président du Timor oriental, après avoir remporté l'élection présidentielle le 20 mars 2017. Francisco Guterres a remporté le plus de votes, plus de 50%, et a battu 7 autres candidats par un tour. Le gouvernement indonésien a présenté ses félicitations. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans son communiqué de presse, a déclaré récemment « Le gouvernement indonésien a souhaité que, sous la direction du président Francisco Guterres, les relations bilatérales puissent continuer d'être encouragées. » Bien sûr, il y aura des représentants de l'Indonésie à un niveau élevé, parce que l'Indonésie et le Timor oriental ont les bonnes relations et très spéciales. Les relations fraternelles qui sont très proches, l'Indonésie et le Timor oriental ont divers intérêts. Et jusqu'à présent, ces relations s'améliorent. Et nous croyons que les relations entre les deux pays seront plus proches de résoudre les divers problèmes qui sont encore dans les négociations, tels que les frontières, etc. Selon M. Armanata Nasir, le gouvernement indonésien souhaite que Francisco Guterres soit également engagé à accélérer la résolution des problèmes auxquels sont confrontées les personnes dans les deux pays. L'une des questions est la frontière entre les deux pays, qui jusqu'à présent ne peut pas encore être résolue. Francisco Guterres est un homme né le 7 septembre 1954. Il a beaucoup d'expérience politique mature. L'élection 2017 est la troisième élection présidentielle pour lui. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien a demandé aux investisseurs japonais d'accroître plus les investissements dans le secteur de l'industrie sidérurgique en amont, comme les produits en acier brut, à la fois sous forme de feuilles ou de barres. Ces matières premières sont nécessaires dans ces projets d'infrastructure dans le pays et soutiennent d'autres secteurs industriels. Le directeur de l'industrie des métaux du ministère de l'Industrie, M. Dodi Rahadi, dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche, a déclaré que le ministère de l'Industrie encourage actuellement les programmes de l'industrie nationale prioritaire, entre autres le secteur de la construction navale, les automobiles, des machines et des métaux de base. Cela rend la nécessité nationale d'acier d'accroître en ligne avec le développement des infrastructures. L'ajout de nouveaux investissements en provenance du Japon fait de l'Indonésie comme base de fabrication qui est prête à entrer sur le marché intérieur de l'ASEAN et du monde. Il a souhaité qu'il y ait une croissance de l'investissement dans l'industrie du secteur d'acier afin de répondre aux besoins du marché intérieur et l'exportation. La région spéciale de Yogyakarta est considérée comme région potentielle pour le développement du tourisme halal, des produits du tourisme naturel ayant des montagnes jusqu'aux plages, la culture ainsi que la position de la région spéciale de Yogyakarta comme centre du royaume de Mataram avec des sites de la culture islamique est une partie du potentiel qui est approprié à développer. Il a été annoncé par le secrétaire de l'équipe de l'accélération du développement du Tourisme Halal du ministère indonésien du Tourisme, M. Tasbir, dans une discussion intitulée « Les opportunités et le potentiel du tourisme halal de Yogyakarta ». Tasbir a déclaré qu'actuellement l'Indonésie devrait rivaliser avec d'autres pays qui ont également mis en œuvre le tourisme halal comme la Corée du Sud, la Malaisie et la Thaïlande. La région administrative spéciale de Yogyakarta, comme l'une des principales destinations touristiques en Indonésie, n'est pas encore inclus dans les 5 principaux marchés musulmans d'archipel. Néanmoins, Yogyakarta possède un potentiel énorme. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Renaissance nationale, une réflexion pour l'unité d'Indonésie ». Chaque 20 mai, le peuple indonésien commémore la journée de la Renaissance nationale, l'événement de l'établissement de l'organisation Budi Utomo en 1908. Au début, les activités de Budi Utomo seulement dans les domaines de l'éducation, culturel et social. L'organisation fondée par Dr. Sutomo et les étudiants à l'école de médecine ou de l'école néerlandaise Stofia. Et puis, devenu le précurseur d'un mouvement qui vise à obtenir l'indépendance de l'Indonésie. À l'époque coloniale, les Indes néerlandaises jusqu'en 1908, la lutte indonésienne pour repousser les colonisateurs sont encore religieux. À l'époque coloniale, les Indes néerlandaises jusqu'en 1908, la lutte indonésienne pour repousser les colonisateurs sont encore régionaux. Les figures telles que Imam Bonjol, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro et Patimura ont lutté eux-mêmes dans leurs domaines respectifs. Par conséquent, ils ont été incapables de vaincre les colonisateurs qui ont le meilleur pouvoir, notamment les arts. L'aspiration pour l'indépendance n'a pas encore été réalisée. Le 20 mai 1908, on a établi Budi Utomo engagé dans l'éducation et aussi utilisé une nouvelle façon dans la lutte pour l'indépendance indonésienne par un mouvement politique. La renaissance nationale est la montée de l'esprit du nationalisme, l'unité et la conscience en tant qu'une nation et s'avancer par un mouvement qui n'a jamais paru pendant l'occupation. 40 ans depuis l'établissement de Budi Utomo, ou 3 ans après l'Indonésie a déclaré son indépendance, précisément en 1948, le premier président Sukarno a déterminé le 20 mai comme le jour de la montée du nationalisme. L'une des raisons depuis le début de l'indépendance, l'Indonésie a besoin d'un outil unificateur. Sukarno a estimé que Budi Utomo est un symbole approprié pour illustrer comment le peuple indonésien a commencé à se lever et s'unir pour résister à l'occupation. Maintenant, il y a 109 ans depuis l'établissement de l'organisation Budi Utomo étant l'initiateur de la lutte et le symbole de l'unité pour la nation indonésienne, la journée de la Renaissance nationale ne doit pas être célébrée seulement à des rituels et des cérémonies célébrées. La nation indonésienne doit comprendre l'importance de l'unité, notamment dans les derniers temps, lorsque le symptôme naissant de la désintégration en raison de la question tribu, la religion, la race et intergroupe. Ne laissez pas la nation indonésienne se désintégrer à nouveau comme la période avant l'indépendance. L'unité fera le pays et la nation forte. Au lieu de cela, la scission fera le pays et la nation faible et inflammable ou même colonisée, au moins sur le plan politique, économique, culturel, par des étrangers. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 mai, la journée internationale de la diversité biologique. La diversité des espèces, des écosystèmes et des paysages favorise le tourisme et la croissance économique. Réciproquement, un secteur touristique bien géré peut contribuer à réduire les menaces sur la biodiversité et maintenir, voire augmenter la population clé d'animaux sauvages grâce aux revenus générés. Le thème de 2017 est biodiversité et tourisme durable. Le thème de cette journée internationale de la diversité biologique est l'occasion de mettre en lumière l'importance de la contribution du tourisme durable tant à la croissance économique qu'à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Le 22 mai 1960, tremblement de terre de Valdivia au Chili a fait le tsunami de 10,7 mètres. Le séisme Valdivia le 22 mai 1960 dans l'après-midi est le séisme le plus puissant du XXIe siècle. Ce séisme a provoqué le tsunami qui atteint le sud de Chili, Hawaï, le Japon, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, l'Australie du Sud et les îles Aléoutiennes en Alaska. Son épicentre était situé dans le sud du Chili, environ 900 km au sud de Santiago. Le bilan des morts du séisme et du tsunami, environ 5 700 personnes. Le 22 mai 2010, Hasrun Ainun Habibi est mort à Munich, l'Allemagne. Hasri Ainun Besari ou Hasri Ainun Habibi est l'épouse du troisième président indonésien B.J. Habibie. Elle est devenue la troisième première dame de l'Indonésie de 1998 jusqu'à 1999. Elle est morte à Munich, l'Allemagne, le 22 mai 2010. Hasri Ainun souffrant de cancer de l'ovaire et le 24 mars 2010, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Ludwig Maximilian Universität Munich en Allemagne. Elle est enterrée au cimetière des Héros, Kalibata, Jakarta. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sergeant Moulantène, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, le rang d'Indonésie s'améliore pour être digne d'investissement. Après une période très attendue, l'Agence des notations internationales Standard & Poor's, SNP, a finalement augmenté le rating de la dette de l'Indonésie pour être digne d'investissement. Standard & Poor's a amélioré la dette de l'État à long terme de l'Indonésie cette année de WB+ à BBB-. Cette amélioration indique que l'Indonésie est maintenant en paix digne d'investissement. Cité du communiqué officiel de SNP vendredi dernier, le 19 mai 2017, l'augmentation du niveau de la dette d'Indonésie est considérée que le gouvernement a pris des mesures pour que les dépenses et les revenus soient aussi efficaces que possible pour stabiliser le financement de l'État. Standard & Poor's considère que la politique adoptée par le gouvernement de l'Indonésie est tout à fait appropriée malgré les chocs causés par le commerce mondial. S&P estime également que la dette du gouvernement sera plus faible et que le déficit budgétaire diminuera graduellement. Standard & Poor's croit que l'accent du gouvernement augmente sur la budgétisation réaliste. La possibilité est que la pénurie de revenus à l'avenir qui élargira le déficit. Le président Joko Widodo a déclaré que le succès de l'Indonésie pour obtenir la grade appropriée de l'investissement de S&P prouve une meilleure gouvernance financière. Selon lui, parce que la réalisation de cette condition d'investissement montre la grande confiance du monde international à l'économie indonésienne au milieu de l'incertitude économique mondiale. Le président Joko Widodo au quartier général de l'armée de l'air indonésienne à Halim Perdana Kusuma, avant de se rendre à Riyad en Arabie Saoudite, a confirmé samedi dernier que la gouvernance financière et fiscale ainsi que la gestion monétaire de l'Indonésie sont meilleures. Le monde international voit la facilité de faire des affaires en Indonésie qui continue de s'améliorer bien. Selon le président, cette appréciation de l'agence de notation joue également un rôle important dans l'augmentation du potentiel d'investissement en Indonésie. Sur la base de la confiance, de nombreux emplois seront disponibles pour les personnes, alors que les flux de trésorerie et les flux d'investissement entreront en Indonésie. Cela pourrait réduire le coût de la dette du gouvernement afin qu'il soit plus efficace et qu'il offre un meilleur espace budgétaire. En plus de cette note d'investissement, la stabilité politique et la sécurité en Indonésie sont également considérées comme meilleures. Par conséquent, le président estime que de telles conditions devraient pouvoir optimiser la croissance économique. Pendant ce temps, la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré que la note d'investissement accordée par le S&P International prouve que le gouvernement d'Indonésie est en mesure de maintenir une bonne gouvernance financière et la stabilité économique. La ministre Mulyani, lors d'une conférence de presse à Jakarta vendredi dernier, le 19 mai 2017, a déclaré que jusqu'à présent, le gouvernement avait essayé d'améliorer la compétitivité de la nation en allouant au budget de l'État pour les dépenses d'infrastructures, d'éducation et de santé visant à accroître l'investissement dans les ressources humaines. Sri Mulyani a confirmé que l'amélioration du niveau de notation de S&P donne des convictions internationales sur la crédibilité de la gestion du budget de l'État, en particulier la performance efficace des dépenses de l'État et l'amélioration des revenus. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le député de la souveraineté maritime, M. Arif Afas Ugroseno, a déclaré que le changement climatique affectait directement la nature ainsi que le conflit de la mer de Chine méridionale. Cela a été affirmé par Afas en marge du Forum géopolitique à Jakarta samedi. Il a déclaré que l'augmentation du niveau de la mer était due au changement climatique qui pourrait affecter la revendication sur la mer de Chine méridionale.
Apabila terjadi kenaikan permukaan laut,
si la surface de mer a augmenté et les caractéristiques ont été noyées, les pays ne peuvent plus revendiquer, car sur la base de conventions sur le droit de la mer, un territoire maritime est mesuré à partir de la formation naturelle des terres. Sans cela, peut-on prétendre? C'est un facteur qui n'a jamais été soulevé dans une discussion sur la mer de Chine méridionale. Arif Afas Ugroseno a également déclaré que la montée de la surface de la mer ne met pas fin simplement au conflit de la mer de Chine méridionale. Par conséquent, selon lui, la gestion du conflit, qui implique plus de 5 pays, doit être effectuée comme a été fait par l'ASEAN, par le biais du code de conduite pour empêcher le conflit de toute escalade. Le roi de Suède Carl Gustaf et la reine Sylvia fera une visite d'État en Indonésie du 22 jusqu'au 24 mai 2017. Il a été dit par l'ambassadeur de Suède en Indonésie, Johanna Brismarskog dans une conférence de presse chez l'ambassadeur de Suède, Jakarta, récemment. À la même occasion, l'ambassadeur Johanna a également dit qu'il y avait trois principaux objectifs de la première visite d'État du roi et de la reine de Suède dans ce pays. Il y a trois principaux objectifs de cette visite. Tout d'abord, d'améliorer les connaissances du public sur les deux pays. Le second, la Suède et l'Indonésie sont prêtes au commerce, l'investissement et le plus de possibilités d'emploi. Nos économies sont complémentaires. Nous avons de nombreux produits, des idées et des solutions qui bénéficient à l'Indonésie. Tout ce qui concerne le commerce et l'infrastructure. Le troisième est l'innovation, la recherche et la collaboration. Nous avons établi des relations fortes dans les instruments universitaires des deux pays. Dans les secteurs du commerce et de l'investissement, l'ambassadeur Johanna a dit que la Suède était intéressée à divers produits indonésiens, y compris le café, le chocolat, la mode, les jeux et l'animation. La Suède est prête à partager des informations sur l'économie durable. Le roi Carl Gustaf et la reine Sylvia se rendront en Indonésie, accompagnés par deux ministres et 31 représentants des plus grandes entreprises en Suède. Le vendredi 19 mai 2017 est le jour historique pour Francisco Guterres, qui était assermenté comme président du Timor oriental. Après avoir remporté l'élection présidentielle le 20 mars 2017. Francisco Guterres a remporté le plus de votes, plus de 50%, et a battu 7 autres candidats par un tour. Le gouvernement indonésien a présenté ses félicitations. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans son communiqué de presse, a déclaré récemment « Le gouvernement indonésien a souhaité que sous la direction du président Francisco Guterres, les relations bilatérales puissent continuer d'être encouragées. Bien sûr, il y aura des représentants de l'Indonésie à un niveau élevé parce que l'Indonésie et le Timor oriental ont les bonnes relations et très spéciales. Les relations fraternelles qui sont très proches, l'Indonésie et le Timor oriental ont divers intérêts. Et jusqu'à présent, ces relations s'améliorent. Et nous croyons que les relations entre les deux pays seront plus proches de résoudre les divers problèmes qui sont encore dans les négociations, tels que les frontières, etc. Selon M. Armanata Nasir, le gouvernement indonésien souhaite que Francisco Guterres soit également engagé à accélérer la résolution des problèmes auxquels sont confrontées les personnes dans les deux pays. L'une des questions est la frontière entre les deux pays qui, jusqu'à présent, ne peut pas encore être résolue. Francisco Guterres est un homme né le 7 septembre 1954. Il a beaucoup d'expérience politique mature. L'élection 2017 est la troisième élection présidentielle pour lui. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien a demandé aux investisseurs japonais d'accroître plus les investissements dans le secteur de l'industrie sidérurgique en amont, comme les produits en acier brut, à la fois sous forme de feuilles ou des barres. Ces matières premières sont nécessaires dans ces projets d'infrastructure dans le pays et soutiennent d'autres secteurs industriels. Le directeur de l'industrie des métaux du ministère de l'Industrie, M. Dodi Rahadi, dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche, a déclaré que le ministère de l'Industrie encourage actuellement les programmes de l'industrie nationale prioritaire, entre autres le secteur de la construction navale, les automobiles, des machines et des métaux de base. Cela rend la nécessité nationale d'acier d'accroître en ligne avec le développement des infrastructures. L'ajout de nouveaux investissements en provenance du Japon fait de l'Indonésie comme base de fabrication qui est prête à entrer sur le marché intérieur de l'ASEAN et du monde. Il a souhaité qu'il y ait une croissance de l'investissement dans l'industrie du secteur d'acier afin de répondre aux besoins du marché intérieur et l'exportation. La région spéciale de Yogyakarta est considérée comme région potentielle pour le développement du tourisme halal, des produits du tourisme naturel ayant des montagnes jusqu'aux plages, la culture ainsi que la position de la région spéciale de Yogyakarta comme centre du royaume de Mataram avec des sites de la culture islamique est une partie du potentiel qui est approprié à développer. Il a été annoncé par le secrétaire de l'équipe de l'accélération du développement du tourisme halal du ministère indonésien du tourisme, M. Tasbir, dans une discussion intitulée « Les opportunités et le potentiel du tourisme halal de Yogyakarta ». Tasbir a déclaré qu'actuellement l'Indonésie devrait rivaliser avec d'autres pays qui ont également mis en œuvre le tourisme halal comme la Corée du Sud, la Malaisie et la Thaïlande. La région administrative spéciale de Yogyakarta, comme l'une des principales destinations touristiques en Indonésie, n'est pas encore inclue dans les 5 principaux marchés musulmans d'archipel. Néanmoins, Yogyakarta possède un potentiel énorme. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons la tradition Akadobulo de Sulawesi du Sud. Alors, restez avec nous, la Voix de l'Indonésie, le service international de Radio République Indonésie. Outre les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voe.ce.id. Chers auditeurs, Sulawesi du Sud a beaucoup de villages et de tribus qui ont diverses cultures et traditions respectives. L'une d'elles est la tradition Akadobulo à Kampung Tama Lalang qui inclut dans le village de Tamanyeleng, la résidence de Goa, Sulawesi du Sud. Le village est environ 10 km de la capitale de Sulawesi du Sud, Makassar. Pour les gens locaux, les traditions Bulo Akado contiennent la signification particulière, à savoir un lieu de rassemblement des citoyens avec des parents. Et en effet, les résidents ou des parents qui vivent loin en dehors de la ville qui viennent à Tamalalang pour assister à cet événement. Chaque année, les habitants célèbrent l'anniversaire du village appelé Atamu Taung avec la tradition Akadobulo ou Mangze Kadobulo, un plat qui est aussi communément connu sous le nom Lemang. Tradition Bulo Akado dans la langue Makassar signifie nourriture de bambou. Ainsi, le plat qui est consommé à cet événement est cuit dans les morceaux de bambou. Un mélange de riz gluant et le lait de coco enveloppé dans des feuilles de bananier mis dans un morceau de bambou. Les tubes en bambou d'une longueur de 40 cm sont grillés autour du feu pendant environ 3 heures jusqu'à cuisson. Une fois terminé, le bambou est coupé pour sortir Kadobulo qui est mûr et prêt à manger. Ce poudre se rondeng, la noix de coco râpée frite avec diverses épices. Kadobulo est devenu le plat principal servi des habitants du village aux membres de la famille, des parents ou les personnes qui ont visité la maison lors de la célébration de l'anniversaire du village. Chers auditeurs, la tradition d'Akadobulo provient de l'époque du 9e roi de Goa, à savoir Imatandre Karaeng Manguntungu Tumaparisi Kalona, qui est arrivé au pouvoir de 1510 à 1546. Le récit est inscrit dans le manuscrit de notes du royaume de Goa, qui est également connu, l'Ontara Bilang. Le 9e roi de Goa ordonne la construction de la forteresse de Somba Opu en 1525. À ce moment, le roi a demandé au village dont le territoire est situé à proximité de la construction de la forteresse de préparer la nourriture pour les travailleurs. Tamak Lalang est langue de village qui est à la distance environ 1 km de Somba Opu. Les résidents de Tamak Lalang font également cadeau boulot pour approvisionner les besoins de nourriture des travailleurs parce que cadeau boulot peut durer pendant 2 à 3 jours. Depuis ce moment, cadeau boulot est devenu une tradition qui est toujours célébrée par les citoyens Tamak Lalang pour commémorer la célébration de l'anniversaire du village et de la récolte. La tradition à cadeau boulot a été stoppée lorsque la guerre Makassar a fait rage en 1666 qui se poursuit avec l'occupation des Pays-Bas jusqu'à l'indépendance en 1945. La tradition de cadeau boulot a été rétablie après l'indépendance de l'Indonésie par le 36e roi de Goa en tant également le premier régent de Goa, Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang Sultan Aidudin. Il a suggéré que la tradition de cadeau boulot est unie à la commémoration de la journée de l'indépendance comme fête de peuple. Depuis ce moment, cadeau boulot est toujours célébré peu de temps après le 17 août. Outre le plat cadeau boulot, la célébration est également animée par des divertissements et une variété d'attractions culturelles sur le champ du village. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La tradition à cadeau boulot de Sulawesi du Sud ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, voici l'édition Apprendre l'indonésien. Aujourd'hui, notre sujet a pour titre Remarque kebanjiran ou en français Ma maison est inondée. Voici quelques mots de vocabulaire et expressions. Rumah kebanjiran. Je répète, rumah kebanjiran. En français, maison est inondée. Masjid. Masjid. En français, mosquée. Dekat rumah. Dekat rumah. En français, près de la maison. Tetangga. Tetangga. En français, voisin. Bank. Bank. En français, banque. Selimut, selimut. En français, couverture. Obat-obatan, obat-obatan. En français, médicament. Air minéral, air minéral. En français, eau minérale. Susu, susu. En français, lait. Pampers, pampers. En français, couche de bébé. Datang, datang, en français, venir. Memeriksa, memeriksa, en français, vérifier. Surut, surut, en français, eau se retirer. Membersihkan rumah, en français, nettoyer la maison. Pasca banjir, en français, après l'inondation. Sampah, sampah, en français, déchets. pertolongan en français, aide. Jangan sungkan. N'hésitez pas. Menelpon en français, téléphoner. Chers auditeurs, voici la conversation entre Anna A et Ika B. A. Hai Ika, mengapa kamu tidak masuk kantor? Je répète. Hai Ika, mengapa kamu tidak masuk kantor? En français. Salut Ika, pourquoi vous n'entrez pas au bureau? A. Apakah rumah kamu kebanjiran? En français. Votre maison est inondée? B. Ya, rumah saya kebanjiran. En français. Oui, ma maison est inondée. B. Air naik sudah selutut. Je répète. Air naik sudah selutut. En français. L'eau est montée à hauteur du genou. A. Sekarang kamu tinggal di mana? En français, où habitez-vous maintenant? B. Saya sekarang mengungsi ke masjid dekat rumah. En français, je me suis déplacé maintenant à la mosquée, elle est près de la maison. B. Saya di masjid bersama tetangga yang juga kebanjiran. En français, j'étais dans la mosquée avec des voisins qui leur maison aussi ont été inondées. A. Apa yang kamu perlukan? En français, de quoi avez-vous besoin? B. Tidak ada, terima kasih. En français, rien, merci. B. Kami di sini sudah mendapat bantuan dari sebuah bank. En français, ici nous avons reçu l'aide d'une banque. B. Kami mendapat selimut, sarung, obat-obatan, air mineral, susu, dan juga nasi bungkus. Je répète. Kami mendapat selimut, sarung, obat-obatan, air mineral, susu, dan juga nasi bungkus. En français. Nous avons reçu des couvertures, des gants, des médicaments, de l'eau minérale, du lait et les paquets de riz. B. Selain itu juga ada popok bayi. En français, il y avait aussi des couches de bébé. B. Setiap hari ada dokter yang datang untuk memeriksa. En français, chaque jour, il y avait un médecin qui venait pour vérifier. B. Ada juga obat-obatan bagi yang membutuhkan. En français, il y a également des médicaments pour ceux qui ont besoin. A. Oh, bagus sekali. En français, oh, c'est bon. B. Setelah surut, kami masih harus membersihkan rumah. En français, après que l'eau s'est retirée, nous devons nettoyer la maison. A. Tentu saja. En français, bien sûr. A. Pasca banjir pasti banyak sampah. En français, après l'inondation, il y a certainement beaucoup de déchets. A. Ini pasti merupakan masalah besar juga. Je répète. Ini pasti merupakan masalah besar juga. En français, c'est certainement un grand problème. B. Kalau kamu membutuhkan pertolongan, jangan sungkan menelpon saya. Je répète. Kalau kamu membutuhkan pertolongan, jangan sungkan menelpon saya. En français, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. A. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Chers auditeurs, c'était Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de musique pour l'édition de lundi. Avec moi, Yubi Surianto, et on va présenter la musique du rythme Kroncong aujourd'hui. On dit que cette musique est née à l'arrivée du Portugal en Indonésie au 15e siècle. Chers amis, vous pouvez écouter notre émission non seulement par onde courte sur la fréquence de 900-200 kHz, mais aussi par l'audio streaming www.viroi.co.id ou bien par l'application RRI Play. Pour l'ouverture de notre rencontre, allez écouter la chanson Padamu Negeri, composée par Kusbini, chantée par Sundari Sukoco. Bonne écoute. Jamie Kusbini est légende du monde musical en Indonésie. Il est connu aux années 35 avec ses collègues Anilando Gesang Abdullah Miss Rukia. Un des chansons de Kusbini, Padamu Negeri, celle de chansons patriotiques, est devenue la chanson nationale. Elle est simple. La parole lyrique est facile à chanter. Mais dans le genre de Kroncong, le nom de Kusbini ne tient pas un rôle comme chanteur, mais pour composer les chansons. Il a du talent sur tout le rythme de Kroncong. Ses œuvres comme Moresco, Purbakala, Sarinande sont très populaires. Bon, maintenant, allez encore écouter la chanson Telemoyo composée par Kusbini. Bonne écoute.
hatiku ingin berlagu membawa telomoyo nama
avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id. Thank you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était quelques chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.